Vous écoutez RFI et je vous en remercie. Les 22h, ici à Paris, 23h à Beyrouth.
Martin Guèze.
Israël lance ce soir une offensive terrestre au Liban, une offensive limitée, précise le département d'État américain. Les États-Unis tenus au courant par les Israéliens. Nous serons en direct de Washington dès le début de ce journal pour en savoir plus. Côté libanais, le Hezbollah se dit prêt à l'invasion terrestre israélienne par la voix de Naïm Qassem, numéro 2 du mouvement chiite, qui a pris la parole pour la première fois depuis la mort du leader Hassan Nasrallah. En France, nous reviendrons sur la première journée du procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement National. Marine Le Pen était notamment entendue. Avant de finir en musique, et le retour du trio britannique London Grammar qui sort un 4e album pop, folk et aérien, nous dira Sophie Torlotin. Israël mène actuellement des opérations terrestres au sud du Liban, des opérations limitées selon le département d'État américain qui viserait le Hezbollah près de la frontière. De son côté, l'armée libanaise repositionne ses troupes, déclare ce soir à l'AFP un responsable militaire. Le conflit est encore monté d'un cran ce lundi après une semaine de bombardements israéliens qui ont fait au moins 1000 morts et 6000 blessés au Liban. Ne l'évoquions plus tôt, l'invasion terrestre tant redoutée, notamment par Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, et par Joe Biden, le président américain, eh bien, elle semble se préciser. On retrouve en direct de Washington Guillaume Nodin. Guillaume, les conversations entre Israël et les États-Unis font donc état d'opérations près de la frontière côté libanais, des opérations que l'administration n'approuve pas forcément.
Oui, je suis davantage au courant que ce que vous pouvez penser et je suis d'accord pour qu'ils arrêtent. Nous devrions avoir un cessez-le-feu maintenant. Joe Biden est assez direct quand on lui pose la question de ce qu'il sait des plans d'invasion terrestre, même limités, de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, confirme que les homologues israéliens de la diplomatie américaine ont bien dit à Washington que des opérations terrestres limitées sont en cours, des opérations ciblant des infrastructures de la milice chiite pro-iranienne du Hezbollah près de la frontière. À ce sujet, le département d'État maintient qu'Israël a le droit de se défendre, qu'un cessez-le-feu n'équivaut pas à l'arrêt unilatéral des hostilités par un pays qui se défend contre des attaques extérieures, que le Hezbollah dit d'ailleurs continuer de mener. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken disait ce lundi matin que le monde était devenu plus sûr depuis la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Néanmoins, la diplomatie américaine dit continuer de privilégier la voie diplomatique dans la zone du Sud-Liban, mais aussi à Gaza.
Merci beaucoup Guillaume Nodin. Guillaume Nodin en direct de Washington sur RFI. Et puis toujours au Liban, Naïm Qassem qui est sorti de son silence, le numéro 2 du Hezbollah qui n'avait pas pris la parole depuis la mort d'Hassan Nasrallah vendredi lors d'un raid de l'armée israélienne. Naïm Qassem qui assure que cette frappe a tué 4 personnes, dont plusieurs membres de la garde rapprochée de l'ancien chef du mouvement, notamment Ali Karake, commandant du front avec Israël dans le sud du Liban. Naïm Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah, qui a aussi affirmé que la formation chiite continuera son combat pour défendre le Liban, le Hezbollah qui se tient prêt.
Si les Israéliens veulent franchir la frontière, les forces de résistance sont prêtes pour ça. Nous sommes préparés à ça, nous les attendons, nous ne dépendons que d'Allah. Nous sommes sûrs que l'ennemi israélien n'atteindra jamais ses objectifs. Nous serons victorieux à la fin des fins. Je veux dire à nos familles et à nos chers sympathisants que je sais que le sacrifice est grand. L'ennemi travaille à deux choses. Un, à attaquer nos militaires et éliminer leurs leaders. Deux, à détruire les villes, les villages et créer des failles dans notre résistance et parmi la population.
La situation très évolutive justement au Proche-Orient, en direct, que vous pouvez suivre sur notre live grâce à nos confrères de la rédaction internet, à retrouver donc sur notre site www.rfi.fr. Retour à Washington, non plus pour évoquer le Proche-Orient, mais pour faire le point sur le bilan humain de l'ouragan Helene, qui ne cesse de s'alourdir. Nous évoquions tout à l'heure le chiffre de 100 morts possibles sur la côte est du pays, un chiffre qui pourrait en réalité être multiplié par 6, jusqu'à 600 vies pourraient avoir été perdues, affirme ce soir la Maison Blanche. L'ouragan qui a provoqué des inondations dévastatrices, notamment en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee et en Géorgie. RFI 22h05 à Paris. L'actualité en France à présent, c'est cette décision du Premier ministre Michel Barnier qui ne sollicitera pas de vote de confiance ce mardi à l'Assemblée nationale. La Constitution ne l'y oblige pas, mais c'est une tradition à l'issue de l'habituelle déclaration de politique générale. Conscient de la fragilité de son gouvernement, Michel Barnier qui doit présenter la feuille de route des 40 nouveaux ministres entrés en exercice la semaine passée. Et puis de leur côté, plusieurs dirigeants du Rassemblement national avaient eu rendez-vous, non pas à l'Assemblée, mais rendez-vous au tribunal, et pas n'importe quel tribunal, le tribunal correctionnel de Paris, pour l'ouverture du procès des assistants européens, en présence notamment de Marine Le Pen et de 24 autres personnes, des cadres, des ex-eurodéputés et des assistants parlementaires qui sont accusés d'avoir participé à un large système de détournement de fonds. des faits qui se seraient déroulés entre 2004 et 2016, à l'époque où le Rassemblement National s'appelait encore le Front National. Les prévenus, de leur côté, contestent. Marine Le Pen était notamment entendue aujourd'hui lors d'une première audience dédiée aux questions de procédure, une première journée qu'a suivie pour RFI Laura Martel.
Au premier rang, tailleur noir, tête légèrement inclinée, Marine Le Pen suit avec attention le défilé des prévenus, appelés un à un à la barre par la présidente pour vérifier leur identité et écouter le rappel des faits qui leur sont reprochés. À l'appel de son nom, la chef de file du RN s'avance d'un pas décidé, mais sans se presser. « Je répondrai à l'intégralité des questions que le tribunal voudra bien me poser », énonce-t-elle d'un ton clair quand la présidente évoque son droit au silence. « Je compte prendre la parole », a tonné juste avant elle Bruno Gollnisch, ex-numéro 2 du Front National, venu à l'audience avec un épais dossier. Si la justice s'arroge le droit d'examiner le travail des assistants parlementaires, cela revient à contrôler aussi le travail des députés, ce qui est contraire au principe fondamental de la séparation des pouvoirs, dénonce-t-il au cours d'une suspension. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen, tout en se défendant dans un demi-sourire de donner une conférence de presse en pleine salle d'audience, échange quelques minutes avec les nombreux journalistes présents. Ce procès est celui de la liberté parlementaire qui intéresse tous les partis politiques, insiste la chef de file du RN, qui assure qu'elle viendra régulièrement à l'audience. Ça m'intéresse, j'ai une vision globale des enjeux et mon sentiment d'injustice est moins fort en étant ici, confie-t-elle.
Laura Martel sur RFI. Au volet économique, le Français Naval Group valide bel et bien la vente de 4 sous-marins. Naval Group, souvenez-vous, le bec dans l'eau en 2021 lorsque l'Australie a annulé au dernier moment la vente de 12 Barracuda, son célèbre modèle de sous-marin. Et bien cette fois-ci, le groupe industriel français a bien acté la vente de 4 exemplaires aux Pays-Bas en signant un contrat de plusieurs milliards d'euros avec le ministère néerlandais de la Défense. Économie toujours. Au Japon, cette fois, où une annonce politique affole les marchés, annonce faite par le futur Premier ministre Shigeru Ishiba. Il succédera demain à Fumio Kishida et il appelle déjà à des législatives anticipées le 27 octobre prochain, ce qui bouleverse les marchés boursiers. Le Nikkei est par exemple en forte baisse, Arthur Ponchelet.
Une chute de près de 5% à l'ouverture pour l'indice vedette japonais, une baisse significative que les experts attribuent à deux facteurs. D'abord, l'appréciation du yen face au dollar, mais surtout les craintes suscitées par l'élection de Shigeru Ishiba au poste de Premier ministre, car dans sa campagne, ce vétéran de la politique nippone s'est dit favorable à une hausse de l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à un renforcement de l'imposition des revenus financiers. Autre promesse de campagne qui inquiète les investisseurs, sa volonté de stimuler la productivité et d'augmenter le salaire minimum horaire. Il passerait à 1500 yens, soit un peu moins de 10 euros. Shigeru Ishiba est aussi perçu comme un soutien de la politique de hausse de taux de la Banque du Japon. Objectif affiché, faire baisser le prix des produits importés et donc stimuler le pouvoir d'achat des Japonais. Reste qu'il faut rassurer les investisseurs, c'est ce qu'il a tenté de faire ce week-end en déclarant que les emprunts devaient rester peu coûteux au Japon.
Et puis très loin du Japon, nous terminons ce journal au Royaume-Uni pour prendre des nouvelles de London Grammar, un groupe que vous connaissez peut-être pour son tube Wasting My Young Years. Eh bien 11 ans après son premier album à succès, le trio anglais est de retour pour The Greatest Love, qu'a écouté pour nous Sophie Torlotin. This is my place, my
house, my rules. C'est chez moi, ma maison, mes règles. La figure de proue de London Grammar, Hannah Reid, s'affirme et refuse d'être une victime. Elle le chante haut et fort dès le premier titre de ce quatrième album. Depuis la formation du groupe en 2009, c'est sa voix qui est mise en avant, claire et affirmée, parfois aérienne. Le nom de London Grammar ne vous est peut-être pas familier, mais vous avez sûrement une fois entendu leur tube « Wasting My Young Years » sorti en 2013. Après 3 millions d'albums vendus dans le monde, deux albums classés numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, le trio britannique se renouvelle et s'aventure vers des contrées ensoleillées sans tourner le dos à sa marque de fabrique, une pop folk aérienne.
Pop-folk anglaise des London Grammar. Pour refermer ce journal, je vous laisse dans les airs et en musique pour retrouver Claudie Ciard et la grande famille de couleurs tropicales.